Virtual Africa. New generation.
Retour sur Afrique virtuelle, je m'appelle Yvan Tina et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Marie-Cécile Zinsou. Bonjour Marie-Cécile.
Bonjour.
Merci d'abord d'avoir accepté cet entretien. Je sais que vous êtes une femme très chargée et je suis vraiment content que nous puissions enfin réaliser ce podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît?
Oui, je m'appelle Marie-Cécile Zinsou, je suis française et béninoise. Voilà, j'ai créé une fondation d'art contemporain au Bénin en 2005 et je travaille sur la promotion et la diffusion des artistes contemporains sur le continent africain.
Comment en êtes-vous venue alors à travailler dans le monde de l'art ?
Alors écoutez, rien ne m'y poussait particulièrement vu que je ne viens pas forcément d'une famille qui faisait ça ou que j'avais démarré ma vie comme ça. Mais en fait, en commençant à travailler au Bénin en 2003, j'étais professeure au village SOS Enfants à Bomek-Alavi, dans un orphelinat, et on m'avait demandé d'enseigner l'anglais. Et puis après, assez rapidement, c'était une école d'art appliqué. On m'a dit, est-ce que tu pourrais donner un peu de background d'histoire de l'art aux étudiants, parce qu'il n'y a aucun cours, d'histoire de l'art, donc j'ai commencé à le faire. Et donc très vite, s'est posé la question d'aller au musée, évidemment, d'emmener les étudiants voir des œuvres, ne pas seulement en parler dans une école, mais commencer à réfléchir à comment on faisait des sorties scolaires au musée. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait très peu de musées, souvent des musées hérités de la colonisation, et un peu hors d'âge, un peu loin de tout, et notamment aucun endroit où voir la création contemporaine. Donc du coup, je vivais une drôle de vie de métisse, c'est-à-dire que j'allais en France, on me parlait de la création africaine contemporaine, je pouvais aller voir des expositions dans le monde entier qui célébraient l'Afrique, comme Africa Remix à l'époque, qui était la grosse exposition qui faisait couler beaucoup d'encre sur la création contemporaine du continent. Et puis, oui. Je rentrais chez moi au Bénin et puis rien. Impossible de voir les artistes, les mêmes que j'avais pu apprécier à Düsseldorf, à Londres, à New York. Et bien, rien du tout au Bénin. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née l'idée. C'était comment est-ce qu'on peut donner la chance aux jeunes générations qui sont en train de se construire sur le continent d'avoir accès à la création et d'avoir accès à ce qu'on peut dire l'Afrique produit de plus intéressant, de meilleur, de plus intelligent, de plus beau. Enfin, comment est-ce qu'on peut donner un accès à ça aux jeunes gens qui se construisent aujourd'hui? Et donc, c'est un peu comme ça qu'est né le projet de la Fondation. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu un accident si je suis tombée là-dedans. C'est que tout à coup, j'avais le sentiment d'être la seule personne qui était un peu alertée sur ce sujet et qui avait envie de faire bouger les choses. Et voilà, donc du coup, c'était un peu fou. Mais je me suis dit, construisons un projet, créons un musée et puis on verra bien ce qui se passe après ça. Et puis, on s'adaptera, on évoluera. Et puis, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 15 ans.
D'accord. Juste pour bien comprendre votre parcours, vous êtes donc autodidacte, vous êtes formé vous-même à l'histoire de l'art ou comment est-ce que ça s'est passé ?
Oui, tout à fait. Ça a toujours été une de mes passions et objectivement, ma mère et mon père nous ont donné beaucoup d'éléments pour nous construire dans ce sens-là, en nous faisant visiter tous les musées, en nous faisant voir toutes les expositions, en nous proposant quand on était très jeune un vrai accès à l'histoire de l'art. Et puis après, en fait, voilà, moi, j'étais en train de me diriger pas forcément dans cette direction, mais je vous dis, après, tout à coup, il fallait créer un musée. Il n'y avait pas d'études curatoriales à l'université d'Abomey-Calavi, au Bénin. Il n'y avait pas tellement de cursus préparés pour ça. Enfin, donc, du coup, je me suis dit, OK, on commence, on essaye d'imaginer comment on peut faire. Et puis après tout, on peut créer le mode d'emploi. Et donc, oui, je me suis formée toute seule en rencontrant les artistes, en lisant tout ce qui s'écrivait, en réfléchissant, en parlant avec beaucoup de gens, en demandant de l'aide à des personnes qui étaient compétentes. Voilà, donc j'ai tout absorbé comme une éponge, j'ai essayé de travailler rapidement et puis au fur et à mesure, l'équipe de la Fondation s'est construite avec des gens qui venaient de ce monde ou pas d'ailleurs, avec des gens qui pouvaient être comme moi, c'est-à-dire qui avaient envie de participer à cette aventure, mais qui n'étaient pas forcément du monde de l'histoire de l'art. Et voilà, on a travaillé et on travaille toujours beaucoup pour essayer de proposer quelque chose qui tient la route au public.
J'ai vu donc dans la courte vidéo de présentation sur Internet de la Fondation Xinzhou que donc elle a été en 2005 le premier centre d'art contemporain à ouvrir en Afrique.
Sur les centres d'art contemporain, il y a beaucoup de choses. Nous, on a été les premiers à ouvrir un musée d'art contemporain en Afrique. Voilà. D'accord. Après, il y a plein d'initiatives qui prennent pas toujours des formes classiques parce qu'il y a aussi plein de formes réinventées sur le continent. Donc, en centre d'art contemporain, il y a plusieurs choses très différentes. Il y a des initiatives diverses et variées sur tout le continent. Donc, je ne saurais pas dire si on est premier centre d'art contemporain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a créé le premier musée avec une collection, avec un véritable propos artistique et scientifique. Enfin, voilà, c'est vraiment pour le musée qu'on a créé en premier sur le continent.
Oui, je m'excuse d'ailleurs, j'aurais dû dire musée, j'ai dit ma langue.
Non, mais c'est parce qu'en fait on a plusieurs lieux et c'est normal aussi. Les gens se demandent toujours un peu au début. Moi, j'étais très hostile au mot musée. Je voulais pas qu'on s'enferme dans un cadre et je me sentais pas forcément légitime au départ parce que comme vous l'avez dit, je suis autodidacte et du coup, je me sentais pas forcément capable de mettre le mot musée parce que j'avais le sentiment que ça donnait un côté très institutionnel. Et puis après, par rapport à notre public, en fait, ça m'a semblé très important de créer un lieu qui était véritablement un musée. Parce qu'il y avait aussi une demande à un moment en disant est-ce qu'on n'est pas digne d'un musée ? Bah si, en fait, on l'est. Et en fait, on peut le créer, on peut proposer un propos. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc, on a toujours eu ce centre d'exposition à Cotonou et puis on a créé le musée à Ouidah. Donc, c'est tout à fait compréhensible que vous hésitiez entre les deux termes. C'est parce que le musée, c'est arrivé au bout de 7 ans. Et voilà, après 7 ans de travail, on s'est dit maintenant, il est temps de mettre le au musée parce que on a créé une collection, on conserve, on accueille les publics, on correspondait en réalité à la définition du mot musée. Mais au départ, c'était un mot qui me faisait peut-être un peu peur.
D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'historique de la Fondation Xinzhou ainsi que sa mission ? Quelle nécessité y avait-il à s'établir à Cotonou ou Ouidah plus précisément ?
Alors Cotonou, c'est arrivé. D'abord, la question s'est posée longuement. Est-ce qu'il faut être dans la capitale Porto Novo ? Est-ce qu'il faut être qui est une ville peut-être plus jolie que Cotonou, qui est une ville assez nouvelle et alors que Porto Novo est une ville ancienne. Donc, la question de Ouidah s'est posée aussi. Donc pour vos auditeurs, ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein, ça se joue sur 80 kilomètres. Vous avez Porto Novo à la frontière du Nigeria. Vous avez Cotonou qui est la capitale économique au centre et Ouidah qui est une des ville tout à fait importante dans l'histoire de la traite négrière. D'accord. Parce que c'est le port de départ de centaines de milliers, peut-être même de millions d'esclaves. Donc, vous êtes sur cette côte et quand on se pose la question, Ouidah et Porto Novo sont des villes historiques. Cotonou ne l'est pas. Et donc, la question se posait forcément de se mettre dans un contexte de ville d'histoire. Et en fait, on a choisi Cotonou pour une raison simple, c'est que Cotonou, c'est 1 200 000 habitants, ce qui n'est pas du tout le cas de Porto Novo et de Ouidah. Donc, à un moment, on s'est dit, si on veut être concret, si on veut être réaliste, on est dans un pays qui est quand même assez pauvre. Donc, on a une vraie question de budget pour les transports et tout ça. Si vous mettez un musée, même s'il est gratuit, dans une localité très lointaine, il est difficile d'accès parce que du coup, l'accès devient très cher puisque vous avez du mal à le rejoindre et qu'il faut prendre un taxi, un ZEM. Donc, on s'est dit, voilà, il faut se mettre dans le cœur de Cotonou. C'est évidemment plus logique pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à nous. Donc voilà, c'est un peu comme ça que s'est fait le choix de la ville de Cotonou au départ. C'était vraiment pour le nombre d'habitants et le nombre de personnes qu'on pouvait toucher. Et je crois que le pari a été assez gagnant parce que Cotonou, c'est aussi la ville où il y a le plus de scolaires. Et donc, oui. Évidemment, c'était le public qu'on cherchait à toucher principalement, puisque moi, j'ai toujours j'ai vraiment toujours ce sentiment que c'est en commençant à aller au musée très petit, enfant, en faisant du musée un lieu habituel pour les enfants, qu'on arrive à capter une génération et à l'intéresser définitivement à ce qui l'entoure dans le monde de l'art. Donc, du coup, voilà, le choix de Cotonou, c'est vraiment celui-là.
Quel était donc l'objectif et la mission de la Fondation ?
Ben, l'objectif, je vous dis, au départ, c'était de pouvoir proposer ce que l'Afrique fait de meilleur et de, enfin, ce qu'on célèbre dans le monde entier de l'Afrique, la création, comment le montrer sur le continent et comment D'accord. le montrer à une génération qui se construit et qui a besoin de fondamentaux, notamment de comprendre d'où elle vient. Pour savoir où elle va. Ça, c'est un peu le fil qui nous a guidés tout le temps. Donc, au départ, c'est très local, la fondation. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Souvent, ils mesurent le succès et ils me disent « Ah, mais maintenant que ça marche au Bénin, tu pourrais aller ailleurs ou tu pourrais faire des expositions dans des musées plus grands. » Mais ça n'a jamais été mon intention. Mon intention, ça a toujours été d'abord de parler aux gens qui étaient dans ma rue et puis après d'agrandir au quartier et puis après à la ville. Mais ça a toujours été quelque chose de très, très local. Et c'était vraiment D'accord. ça qui était fondamental.
D'accord. La Fondation Zinsou, vous y avez fait allusion tout à l'heure, a une programmation fortement tournée vers les publics jeunes, dont plus de 80% dans votre cas, à moins de 20 ans. Qu'est-ce que cette jeunesse représente pour vous ?
Non, mais je le rappelle souvent parce que les gens ne se rendent pas toujours compte qu'on est dans un pays où l'âge médian est à 17 ans. Et donc, nous, notre but, ça a toujours été de toucher les jeunes, mais c'est assez normal que notre public soit très jeune, puisqu'on a toujours eu des programmes pédagogiques tout à fait importants. On parle avec les professeurs, avec les élèves, évidemment. On a un bus qui va chercher gratuitement les écoles sur simple demande et qui les amène quand elles sont trop loin pour venir à pied. Voilà. Donc, on a toujours été très, très axés sur les publics jeunes et scolarisés. Ou jeunes d'ailleurs et pas scolarisés, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi avec les enfants qui n'ont pas pu être scolarisés. Donc voilà, donc pourquoi toucher le public jeune ? Je vous disais, c'est parce que c'est ça l'avenir de notre pays, c'est eux. Mmh. Et on leur demande d'être les mêmes. On va leur demander, dans un monde où il y a Internet en gros et où le monde entier est connecté, on va leur demander d'être les mêmes que les enfants qui grandissent partout, à New York, à Lima ou à Saigon. À part que, juste, si on ne donne pas les mêmes chances aux nôtres, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se positionner dans le monde ? Savoir d'où l'on vient, c'est hyper important. Comprendre son histoire, comprendre, retrouver sa fierté. Vous savez, je trouve que c'est un des points, alors je ne peux pas dire pour les autres pays, parce qu'évidemment, je les connais moins profondément que le mien, mais on a eu quand même des questions. Quand en 1892, on est colonisé, en 1960, on est indépendant, en 1977, on tombe dans la révolution marxiste-léniniste. Seulement en 1991, on récupère un peu d'identité. Donc en 1991, ça fait quasiment 100 ans, on est dans un mix de culture des autres qui est venu se surimposer sur la nôtre. Oui. Et notamment, dans le cas de la colonisation, une guerre qui nous a infériorisés. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'on se retrouve dans son identité quand on est un jeune de 15-20 ans, dont les parents ont été élevés dans le marxisme-léninisme, dont les grands-parents ont été élevés en France, entre guillemets, sans être français, mais sans pouvoir vraiment être dahoméen. Comment est-ce qu'on se construit là-dedans ? Et je pense que le musée est une partie de la réponse, et le musée peut apporter la fierté qui manque. Parce que je trouve qu'à notre génération, on arrive sur une génération qui manque un tout petit peu de fierté et qui regarde souvent vers l'extérieur pour trouver des modèles de réussite. Et nous, notre question, c'était aussi comment est-ce qu'on peut apporter des modèles de fierté de l'intérieur. On a une histoire extrêmement riche, on a des créateurs absolument remarquables. Comment est-ce qu'on peut rappeler ça aux gens et leur rappeler qu'en fait, nos cultures sont tout à fait importantes et c'est pas parce qu'elles ont été dénigrées pendant de très très longues années, parfois des dizaines, parfois des centaines pour certains pays. Comment est-ce qu'on peut rappeler aux gens à quel point notre culture est importante et essentielle ? Et donc voilà, donc on a travaillé là-dessus, le musée, les jeunes générations au musée, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça la base de réflexion.
Je sais que vous avez reçu en 2014 le prix Premium Imperiale, j'espère que je le prononce bien,
oui,
décerné par par l'Association japonaise des beaux-arts. Et donc, dans une vidéo sur Internet, on peut vous y découvrir, délivrant un discours de remerciement dans un japonais impeccable. Et non, j'étais très impressionné. Je ne sais pas
non,
si
mais
vous
avez pour l'anecdote, vous imaginez qu'un jour, vous êtes à Cotonou et vous recevez un coup de fil qui vous dit que le frère de l'empereur va remettre le Premium Imperiale, qui est considéré comme le prix Nobel des arts. Ok, oui. Super. Donc voilà, le frère de l'empereur du Japon va faire ça. Bon, très bien. Mmh. Et là, vous vous demandez en quoi ça vous concerne et pourquoi on vous appelle pour ça. Là, on vous dit qu'on pense à vous pour le recevoir. Alors ça, c'est au mois de février, si vous voulez. Donc déjà, c'est l'hallucination absolue de se dire mais comment ces Japonais nous ont trouvés au fin fond du Bénin. Enfin, c'est-à-dire, on est très, très, très loin du Japon quand on est au Bénin. Et ces gens cherchent absolument dans le monde entier des initiatives artistiques, des artistes, et puis des initiatives artistiques différentes. Et donc, la raison pour laquelle vous m'avez vu parler japonais, c'est parce que je me suis dit, OK, quand on est béninoise et qu'on a, je ne sais pas quoi, à l'époque j'avais 32 ans, quand on est béninoise, qu'on a 32 ans et qu'on reçoit un prix de cette importance, comment on peut remercier la famille de l'empereur du Japon ? Et je me suis dit, le moyen le plus simple, c'est peut-être de leur dire à quel point on est reconnaissant en apprenant le japonais pour pouvoir les remercier dans leur langue et leur faire savoir à quel point on est touché sur leur standard. Et donc voilà, c'est pour ça que vous avez cette vidéo de moi en train de parler japonais sur Internet, puisque j'ai appris le japonais pour remercier le frère de l'empereur du Japon de nous avoir décerné un prix, une dotation financière pour la fondation.
Alors non, mais c'est intéressant parce que du coup, vous avez un petit peu anticipé ma question. Donc, je me disais que peut-être que plutôt que de vous exprimer en anglais, en yoruba ou en fon, je sais pas, j'ai trouvé que c'était peut-être là une manière originale d'établir un dialogue depuis l'Afrique avec l'Asie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, des échanges qui existent entre ces deux continents, notamment du point de vue artistique et du marché de l'art ?
Écoutez, les échanges entre l'Asie et l'Afrique, vous voulez dire ?
Oui.
Aujourd'hui, en recevant le prix, d'abord, je ne suis pas sûre que ça couronnait des échanges immenses entre le Japon et le Bénin. Je ne pense pas que c'était vraiment le cas.
Mais non, j'entends bien. Mais en fait,
aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, effectivement, sur les échanges africano-asiatiques. Alors, je ne sais pas, je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour en parler. Parce qu'au niveau des échanges artistiques, il commence à y avoir des choses très intéressantes. Il commence à y avoir des projets, on reçoit des artistes japonais, on a reçu les gens du Festival de photographie de Kyoto. Donc on commence à faire naître des choses, mais c'est encore très tôt. C'est encore très tôt pour pouvoir parler véritablement d'échanges dans notre cas béninois.
D'accord. Pour revenir au Bénin, quelle est la situation des artistes au Bénin et plus généralement ? Que dessine le paysage artistique africain contemporain, selon vous ?
Alors, je pense que la situation au Bénin, elle est moins bonne qu'elle ne l'était il y a 200 ans, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'en nombre
d'histoires...
Moins bonne qu'il
y a 200 ans ?
Oui. En fait, être artiste contemporain au 18e ou au 19e siècle, au Dahomey, on va dire, parce qu'à l'époque, on n'était pas le Bénin, au Dahomey, c'était une situation plus enviable que celle d'artiste contemporain aujourd'hui. En partie parce qu'on vient d'un pays où il y a une tradition énorme des arts de cour et une tradition tout à fait importante. Tous les rois du Dahomey, tous les Agassouvi ont été vraiment très attentifs à montrer leur puissance par l'art, en fait, comme la plupart des souverains qu'on connaît dans les différentes histoires qui sont les nôtres. Mais donc, du coup, au Dahomey, l'art de cour a toujours été poussé à son plus haut niveau. Les artistes avaient un statut important. Quand il y avait des guerres contre les royaumes voisins, les artistes des autres royaumes étaient capturés et ramenés au Dahomey, étaient immédiatement installés dans une maison avec des épouses pour qu'ils aient des enfants et qu'ils s'établissent et qu'ils apportent leur pratique artistique pour faire rayonner la grandeur du roi. Donc, si vous voulez, c'était vraiment... Enfin, ils gagnaient beaucoup d'argent et dès qu'ils pouvaient apporter quelque chose... Donc, il y a ce premier aspect-là. Ensuite, il y avait l'aspect, la population réunie chaque année pendant les Rouetanou, pendant les coutumes au Dahomey. On montrait à la population rassemblée ainsi les collections royales. Donc les œuvres défilaient, les œuvres sortaient du palais et étaient portées par les femmes du roi ou par les Amazones et étaient montrées à la population dans son intégralité. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'il y avait une pratique de monstration publique. Le musée n'existait pas, mais c'était une façon différente. Ce n'était pas les gens qui venaient aux œuvres, c'était les œuvres qui venaient à la population. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que les gens savent pas toujours de quelles pratiques ils viennent, de quelles pratiques artistiques ils viennent, et si on avait à l'époque. Les gens ont souvent l'impression que c'est avec le musée colonial qu'on a découvert l'art et la façon de le montrer dans les pays. Donc au Dahomey, déjà, c'est pas du tout le cas. Au Dahomey, il y a toujours eu cette tradition de montrer la culture, de montrer l'art, de montrer les œuvres. Et donc, voilà, la situation des artistes au Bénin était probablement mieux sous le roi Guézo qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, comme dans tous les pays alentours, hein, c'est une situation compliquée, il y a une fiscalité complexe, il n'y a pas de reconnaissance des États, il n'y a pas de structure de promotion des artistes. Les artistes qui sont reconnus sont souvent les cousins des gens qui travaillent dans le ministère. Enfin, voilà, c'est pas la foire au talent ou la prime à l'excellence. On attend souvent aussi des artistes qu'ils soient les promoteurs de leur œuvre. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ce soit les artistes qui montrent les expositions, qui vendent leurs œuvres. Enfin, les artistes sont un peu des gens qui seraient censés être des super businessmen qui arriveraient à tout faire d'un coup, parce que l'économie est tellement faible qu'il n'y a pas la place de créer des métiers dans le marché de l'art. Donc très souvent, les artistes, pour exister, partent à l'étranger. Mais ça peut être des Béninois qui partent en Côte d'Ivoire ou qui partent en Afrique du Sud ou qui partent. Et puis après, plus généralement, à Paris, à Amsterdam, à New York ou à Londres.
Merci pour la transition. Quel regard portez-vous sur la diaspora africaine et son dialogue avec le continent ou du reste avec les autres continents ?
C'est pas forcément un sujet que je connais très bien, la diaspora, parce que comme je n'en fais pas partie, je suis moins. Alors, c'est un sujet.
Vous ne vous considérez pas comme partie prenante de la diaspora ?
Ben, c'est-à-dire que je serais. Vous pourriez considérer qu'en tant que métis, je peux être de la diaspora française au Bénin ? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que moi, je suis béninoise vivant au Bénin. Alors, je ne sais pas trop dans quelle catégorie de diaspora vous me mettez.
Non, je vous mets dans aucune catégorie. Je voulais savoir si vous vous considériez comme faisant partie de cette diaspora.
Ben non, parce que je suis béninoise dans mon pays, donc du coup ça peut pas faire de moi de la diaspora. Je suis béninoise au Bénin, c'est pas très original, mais c'est.
Non, mais vous vivez donc au Bénin, non, parce que j'avais eu
l'impression que vous étiez. Ah ben, je vis à Cotonou depuis 2003.
D'accord, je pensais que vous étiez que vous étiez aussi en France, en fait, vous étiez aussi établi.
Ah non, 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 après, l'autre jour j'étais à Londres, là j'étais à New York la semaine dernière, et là je suis à Paris tout de suite, et voilà, après je serai à Lomé dans 2 semaines, enfin, oui, non, après, c'est ça, je voyage beaucoup, mais ma maison, mon bureau, mon équipe sont à Cotonou, évidemment.
D'accord, donc du coup, j'ai eu...
Voilà. Mais après, non, par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être sur la diaspora, sur les artistes de la diaspora. Je trouve que c'est un mouvement qui est, à mon avis, pas encore très défini. Je suis en train de regarder par rapport à, vous savez, aux foires qui sont en ce moment, bah, justement, 154 à Londres ou ACA à Paris. Et du coup, j'essaye de comprendre ce qu'on veut dire par diaspora. Parce que, est-ce qu'on parle des gens qui sont en dehors de leur pays en ce moment ? Est-ce qu'on parle aux États-Unis des afro-descendants ? Parce que quand on était à 154 il y a 2 semaines, il y avait des artistes qui étaient des artistes afro-américains. Mais alors du coup, c'est plutôt des afro-descendants que de la diaspora. Et donc du coup, pour moi, la diaspora, ce n'est pas encore un sujet totalement clair. C'est une scène extrêmement dynamique. Mais la question est, voilà, comment est-ce qu'on définit cette scène ? Est-ce qu'il y a déjà une définition de cette scène ? Je ne sais pas.
Non, c'est une question intéressante.
C'est intéressant.
On parle bien de la diaspora juive, par exemple, qui inclut des gens qui ne sont pas nécessairement venus du Moyen-Orient ou d'Israël. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une différence à faire avec les Africains, par exemple ?
Non, mais en fait, quand vous dites les Africains, déjà, vous définissez la diaspora. En réalité, c'est plutôt aux États-Unis que la question se pose, c'est sur les Afro-descendants.
Et dans les Caraïbes.
C'est plutôt. Oui, voilà, c'est ouais, exactement. C'est dans les Amériques, quoi. C'est vraiment cette zone-là, en fait, où la question se pose réellement. Parce que en France, les gens qui viennent d'Afrique savent d'où ils viennent. Ils connaissent leur pays d'origine. Ils ont des liens généralement. Enfin, alors qu'aux États-Unis, c'est plus compliqué. Les gens savent pas si leurs ancêtres ont été déportés du Congo, du Cameroun, du Bénin, du Sénégal. Enfin, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Donc, voilà, la question de la diaspora, je pense que c'est une question qui, aux États-Unis, est la question la plus compliquée. Et le marché de l'art a tendance à mettre les gens dans un thème diaspora, parce que je pense que c'est à la mode aussi.
D'accord.
Donc du coup, il y a voilà, du coup en tout cas à 154, il y avait beaucoup d'artistes afro-américains. Il y avait beaucoup d'artistes émigrés. Il y avait voilà, il y avait vraiment des artistes qui venaient du monde entier, dont certains sont africains et dont certains ne le sont pas ou ne le sont plus.
D'accord.
International.
Je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y a quelques grands noms qui apparaissent sur votre site web, de Jean-Michel Basquiat, Bruce Clark et d'autres encore. Là, je parle évidemment que des artistes non issus du Bénin ou de l'Afrique, enfin, à part pour Bruce Clark. Mais donc, vous avez souvent de nombreux échanges avec des collectionneurs du monde entier. Comment procédez-vous à la sélection des œuvres que vous exposez et comment est-ce qu'ils entrent en résonance avec le contexte local ?
Alors, en fait, il y a plein de choses différentes. C'est-à-dire que dans le cadre de l'exposition Basquiat, qui n'est pas forcément la plus représentative de nos expositions, mais qui est tout à fait importante, c'est un collectionneur qui nous a dit, voilà, moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est fou que Basquiat ne soit pas présenté sur le continent africain, et notamment au Bénin, qu'il vient quand même en partie d'Haïti. Haïti a des liens très, très forts avec le Bénin. Donc forcément, la question se pose sur les thèmes et tout ça. Enfin, voilà, là, ça entre en résonance parfaitement avec le contexte local. Et du coup, moi, je l'ai dit, aujourd'hui, c'est très compliqué d'obtenir des prêts d'œuvres tout à fait chères, puisqu'on était en 2008 et personne ne pensait pouvoir prêter des œuvres importantes en Afrique. Et lui m'a dit, mais moi, je vous en prête et je vous prête toute ma collection. Et du coup, grâce à Enrico Navarra, on a pu faire une exposition absolument majeure de Jean-Michel Basquiat sur le continent. Donc ça, c'était une chance exceptionnelle. Mais on avait commencé avec un artiste qui est aujourd'hui extrêmement reconnu et qui est très important dans notre histoire. Et c'est Romuald Azoumé. Oui. En fait, au départ, c'est ses œuvres à lui que je vois beaucoup à l'extérieur et que j'espère pouvoir montrer au Bénin. Et donc, c'est lui que je vais voir en premier en lui disant, voilà, j'ai 21 ans, j'y connais rien, mais je pense qu'il faut faire un musée d'art contemporain. Je pense qu'il faut présenter vos œuvres parce qu'il faut que les jeunes gens les voient et tout ça. Et c'est lui qui me dit, OK, on y va, on le fait et je te prête tout, je mets tout à disposition et on y va, on joue le jeu et voilà. Et donc, Romuald, évidemment, c'est le premier artiste qui fait une grande exposition monographique chez nous. C'est sa première grande exposition au Bénin. Il y a eu des expositions à l'Institut français, mais là, c'est la première fois qu'il y a un vrai solo show avec un catalogue, avec 800 mètres carrés qui lui sont dédiés. Enfin, voilà, donc c'est le premier qui est important. Puis c'était important de commencer avec un artiste béninois au Bénin. Je pense que voilà, c'était la première chose à faire, de rendre hommage à la création du pays pour inviter les gens à venir découvrir et puis après leur proposer un voyage vers d'autres cultures. Mais je pense que c'était important de commencer dans la mesure où il n'y a rien du tout. C'était important de commencer avec le Bénin.
Non, mais je suis tout à fait conscient que vous exposez de nombreux artistes africains comme Georges Lilanga, Romuald Azoumé, j'ai vu, Samuel Fosso et d'autres encore. Mais je m'intéressais
plus particulièrement. Bruce Clark, il est sud-africain en fait, parce que vous aviez l'air de penser qu'il était étranger, mais il est sud-africain.
Non, je sais bien que Bruce Clark est sud-africain et qu'il a beaucoup compté dans le combat pour l'apartheid depuis la France. Ouais. Non, c'était juste vraiment plus particulièrement, c'était pas nécessairement.
Non, mais pour vous donner une idée de notre définition de l'art africain, c'est un petit peu plus large que juste d'avoir un passeport d'un pays. Hein. C'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de dire, nous, ce qu'on veut présenter, c'est la création du continent sur le continent. Mais en fait, ça peut impliquer d'inviter des artistes étrangers qui viendraient d'autres continents, mais qui ont envie de créer sur place et qui ont envie de porter un message, de dire quelque chose. Et donc, en résidence, on reçoit beaucoup d'artistes qui viennent de l'étranger. Là-bas, par exemple, on a fait une grosse exposition l'année dernière avec une jeune femme tout droit sortie des Beaux-Arts, Pauline Guerrier, des Beaux-Arts de Paris. Et elle est venue et elle a fait un travail extraordinaire pendant 6 mois de résidence à Ouidah, où elle a fait un travail qui a été une exposition avec un succès incroyable, parce qu'en fait les gens étaient complètement touchés, ça leur parlait complètement, parce qu'elle est vraiment arrivée à Ouidah dans l'idée de découvrir la culture, de comprendre ce qu'il y avait autour d'elle et de trouver une nouvelle inspiration. Et elle s'est intéressée au contexte et elle a travaillé sur les femmes, sur l'eau. Enfin, et elle a puisé vraiment, elle a créé des nouvelles techniques chez nous. Elle a vraiment fait un travail où personne n'aurait pu dire qu'elle n'était pas une artiste africaine quand on a fait l'exposition. Oui. Donc, vous voyez, en fait, voilà, on a une action assez large de l'artiste africain.
D'accord. Dans notre cas, non, je veux juste préciser mon propos. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Quand je parlais d'artistes étrangers, je veux dire étrangers par rapport au Bénin. Donc, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la France, les États-Unis sont tous pour moi dans ce contexte-là.
On a toujours dit aussi que c'était très important de présenter la création d'un continent qui n'est pas une et indivisible. C'est-à-dire que quand les gens me disent « Alors, l'art africain, c'est comment ?» Bah, c'est super. C'est-à-dire que, vous voyez, ça, il y a un côté genre… Évidemment, non, ce qu'on voulait montrer, c'était justement la diversité de la création à l'échelle d'un continent. C'est une chance inouïe. Donc, c'est vraiment ça. On a toujours été très clair sur le fait qu'on voulait montrer des artistes du monde entier qui pouvaient résonner chez nous.
D'accord. Comme vous le savez, vous vivez donc à Cotonou. Les sociétés africaines sont très vivantes et je crois savoir que vous affichez un volet danse, théâtre, musique dans vos manifestations qui, moi, m'intéresse particulièrement vu que je m'intéresse aux arts vivants. Comment expliquez-vous que les arts vivants soient, d'une manière générale, souvent aussi absents des centres d'art et encore, je ne vous en fais pas le grief. J'imagine que c'est une situation générale, mais comment faire en sorte que les arts de la scène pénètre mieux non seulement le discours sur l'art contemporain, mais aussi soit plus présent dans les musées, les foires, les festivals, etc.
Alors, après, c'est toujours la même chose. Quand vous faites un festival de danse contemporaine, vous présentez rarement des tableaux. Et quand vous faites une exposition monographique sur Romuald Azoumé, vous présentez rarement du théâtre. Ça, c'est peut-être un genre un peu classique. Mais en l'occurrence, je trouve que sur le continent, c'est vraiment à manier avec modération. Parce qu'en réalité, les arts sont très, très liés. Et du coup, il se passe beaucoup de choses. Au Bénin, on est constamment dans la performance et dans les arts vivants. Il y a une scène très dynamique sur la danse, qu'elle soit traditionnelle ou contemporaine d'ailleurs, parce qu'on a un conservatoire des danses traditionnelles exceptionnel, un ballet national efficace, et on a aussi des jeunes chorégraphes comme Rachel Agbosou, Marcel Beffa, qui sont des gens très talentueux et qu'on a la chance de voir au Bénin. C'est-à-dire que je trouve que sur les arts vivants, on est beaucoup plus confrontés aux artistes, aux danseurs, aux metteurs en scène, aux acteurs, qu'aux plasticiens. Ça, c'est quand même une chose qui, au Bénin, est très forte. Je ne saurais pas vous dire si dans les pays aux alentours, c'est lié. Mais nous, on a toujours cherché à faire des programmations variées qui pouvaient se lier. On a créé un festival de danse sur plusieurs éditions parce qu'on avait une collaboratrice qui était férue de danse contemporaine et qui était capable de faire une programmation tout à fait exceptionnelle. Donc, on a tout à fait lié nos expositions à notre programmation de danse. Ça a été une période absolument formidable. On a travaillé avec des metteurs en scène, on a travaillé avec des acteurs qui sont venus faire des lectures dans notre lieu. Enfin, on a toujours essayé de donner plusieurs dimensions quand on pouvait sur les expositions. Après, on reste un musée où l'idée est de valoriser les œuvres des artistes plasticiens. Donc, de toute façon, c'est quand même ça notre but en définitive. Mais je trouve qu'il y a souvent des liens entre les différents arts.
L'Afrique à l'envers. Upside down Africa.